Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Nicolas Sandé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Ludovic Auger. Nouvelle série consacrée au Covid et à la manière dont les pays répondent à la crise sanitaire. Nous parlerons cette semaine des plans de relance économique des uns et des autres, de la course au vaccin, des transformations aussi de nos conditions de travail. Mais pour commencer, penchons-nous sur la réponse sanitaire des États d'Europe et sur leur difficile acceptation par une partie de nos sociétés. On l'a encore vu ce week-end avec des manifestations anti-masques un peu partout, à Paris, à Zurich, à Londres, mais surtout à Berlin.
Tout ce gouvernement est illégal. Tout est illégal. Et le corona est juste une grippe moyenne, forte. C'est une pandémie utilisée pour nous réduire en esclavage, nous les humains.
Il y a des milliers et des milliers de scientifiques, des médecins du monde entier qui ne sont pas entendus. Ils sont réduits au silence. Ils sont censurés ou discrédités en tant que défenseurs de la théorie du complot, même s'ils travaillent dans des universités de premier ordre. Je proteste contre ça.
Les gens qui ne s'informent pas d'eux-mêmes, à l'inverse de nous, restent ignorants et croient ce que le gouvernement leur dit. Ils ont peur de ce que le gouvernement nous met dans la tête. Et la peur affaiblit le système immunitaire.
Ce week-end, plusieurs manifestations anti-masques ont été organisées à Paris, où 200 à 300 personnes s'étaient réunies place de la Nation, mais surtout à Berlin. On entendait là quelques témoignages, où là, près de 38 000 personnes, ce sont les chiffres de la police, se sont rassemblées près de la colonne de la Victoire, puis porte de Brandebourg, à deux pas du Parlement, dans lequel certains ont tenté de pénétrer de force. Si la police leur en a empêché l'entrée, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a condamné une attaque, disait-il, insupportable contre le cœur de la démocratie allemande. Épisode résonnant de façon brutale avec l'incendie du Reichstag par les nazis de 1933. Mais le phénomène n'est pas qu'allemand. En Espagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et plus loin bien sûr aux États-Unis, des voix se font entendre pour contester les mesures de restriction des libertés prises pour endiguer le virus. Et derrière ces contestations, le doute pointe la capacité des dirigeants à gérer cette crise et plus largement à dire la vérité. Incohérence des mesures, gestion au jour le jour, retournement, la crise a érodé la confiance envers les élites. Alors face à cette défiance envers les élites politiques et scientifiques, les mouvements populistes peuvent avancer leurs pions en tentant de politiser ces mouvements de contestation. La crise du Covid pourrait-elle profiter aux forces populistes? La nature même de cette crise peut-elle le laisser penser? Qu'en est-il en Allemagne, en Espagne aussi, on s'y intéressera, ou même en Suède, où on a fait le choix de la recommandation contre l'obligation? Coronavirus vers une deuxième vague populiste, c'est la question sur laquelle nous nous penchons ce matin. Pour ce faire, on a invité Nicolas Hubet. Bonjour Nicolas Hubet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Paris 1. Corrigez-moi.
Je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine.
Et ben voilà, ça commence par une erreur, c'est pas terrible, on va essayer de faire mieux. En tout cas, vous avez participé à un ouvrage collectif qui n'est pas encore paru, qui va paraître, Covid-19 and Populism, c'est un ouvrage en anglais. On le sait, les crises sont des environnements qui sont propices pour le développement des forces populistes, et l'objet de cet ouvrage, si je ne m'abuse, c'est de regarder si ce Covid est une crise comme une autre, et si elle produira ou non une montée en puissance des populismes dans le monde. On va essayer de s'y intéresser et on va commencer pour ce faire à s'intéresser à l'Allemagne, parce qu'après une première grande manifestation d'anti-masques, comme on les appelle, le 1er août dernier, la ville de Berlin avait décidé dans un premier temps d'interdire la manifestation prévue ce week-end, et puis finalement le tribunal de Berlin a fini par autoriser le rassemblement, la liberté d'expression, la liberté de manifester, l'emportant sur la nécessité de protéger la santé des Allemands. Sauf que ces dernières heures, Nicolas Hubet, ce qu'on a vu, c'est un débat qui monte sur la question de l'autorisation ou non de ces rassemblements, justement, suite au débordement de ce week-end. Il faut stopper le virus brun. Ça, c'était le titre de Bild dimanche. Est-ce qu'il faut interdire ces manifestations, quitte à entraver la liberté de manifester des Allemands, Nicolas Hubet?
Alors c'est certainement pas à moi de me prononcer sur ce point, mais ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que la ville de Berlin et puis la préfète de police Barbara Slowik expliquait que s'ils avaient pris la décision d'interdire cette manifestation, c'est qu'il y avait deux ordres publics majeurs: d'un côté la santé publique, de l'autre côté l'ordre public, et que pour eux la santé publique primait. Le tribunal, lui, a dit exactement l'inverse. Il disait, d'une part, la santé publique n'a pas de valeur constitutionnelle. En revanche, les libertés publiques priment avant tout. Et ça renvoie typiquement à l'histoire allemande. Et donc, le tribunal s'était prononcé pour autoriser, sous contrainte, de respecter les consignes sanitaires. Et c'est ce qui a permis à la préfecture de police, après une heure de manifestation, ou une heure et demie de manifestation, d'interdire, de stopper la manifestation, parce que les manifestants ne respectent, qu'il y avait donc la liberté de manifester, ne respectait pas les consignes sanitaires.
Ça, c'est plutôt le signe d'une démocratie allemande qui, finalement, va plutôt bien. C'est-à-dire que d'un côté, on a une justice qui garantit la liberté des individus, et de l'autre, on a une police qui est censée, faire respecter la loi, les consignes sanitaires. En fait, tout le monde est à sa place là-dedans.
Exactement. On est dans un système, de ce point de vue, de la démocratie allemande, plaçant la Constitution avant tout, les libertés publiques avant tout, la démocratie avant tout. Ce qui est encore intéressant, c'est que l'argument « il n'y a pas de souci a priori d'ordre public » a été dimanche repris par le même tribunal de Berlin, puis par la Cour constitutionnelle, pour cette fois-ci interdire le projet de créer un camp des anti-masques au même espace que la manifestation, précisément au nom des circonstances de samedi dernier. Donc là aussi, on voit que la justice arrive à décider et à arbitrer entre santé publique, ordre public, assez rapidement.
L'Allemagne a été l'un des premiers pays, si ce n'est en fait le premier pays en Europe, à voir effectivement ces manifestations qu'on appelle maintenant anti-masques. Il y en a un peu partout. Il y en a eu ce week-end du côté de l'Angleterre, il y en a eu en Suisse, il y en a eu une petite en France, on y reviendra peut-être. Mais pourquoi, selon vous, l'Allemagne a été particulièrement pionnière, si je puis dire, dans l'émergence de ce type de manifestation? Est-ce que c'est parce que les Allemands ont plus que tout autre cette question de la liberté chevillée au corps? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Non, je crois qu'il faut inscrire ça dans les transformations politiques de l'Allemagne depuis une dizaine d'années. Et je pense que les manifestants ont... Le prétexte du Covid n'est qu'un prétexte pour un mouvement de protestation plus large. Quand je dis qu'il faut inscrire ça dans le contexte d'une dizaine d'années, c'est qu'effectivement, du point de vue politique, et on en a déjà parlé ici, on est depuis 2005 dans une grande coalition, c'est-à-dire où les oppositions sont très réduites. On a du mal à s'y retrouver en tant qu'électeur. Quand on vote pour l'un, finalement on gouverne avec l'autre. Et est-ce que, dans le témoignage qu'on entendait au début de l'émission, ce qui était intéressant, c'était l'idée d'un gouvernement illégal. Donc cette idée que c'est plutôt d'ailleurs la légitimité, où est l'opposition là-dedans? Et là-dessus est venu se greffer des mouvements de protestation anti-élite, et on parlera sans doute de l'AFD, des mouvements Pegida, ainsi que depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années, tout un discours de contestation des médias, le discours de la presse du mensonge, la Lügenpresse, des gouvernants qui n'arrivent pas à gouverner. Et avant de venir à cette émission, je constatais que, par exemple, la Friedrich Ebert Stiftung avait fait une enquête en 2019, à la fin de l'année, et qui montrait que 38%, voire un tiers des Allemands, je ne sais pas si on est à 38 ou 39, croient aux théories du complot. C'est-à-dire que l'idée des complots...
C'est un chiffre colossal, ça.
C'est un chiffre exactement colossal.
Supérieur à la moyenne européenne ?
Oui, Tout à fait. Mais, et là, ce qui est un peu nouveau, c'est que dans cette enquête, la science, les médecins, sont les seuls à ne pas être ciblés. Or là, il y a un réel changement depuis le Covid. Mais ça, je crois que c'est ce qu'on rencontre aussi dans d'autres pays, de remise en cause de la vérité scientifique, sachant que on redécouvre ce qui avait disparu du sol européen au moins depuis un siècle, c'est-à-dire les débats, les controverses scientifiques, le fait qu'on ne sache pas comment traiter une maladie.
Alors la question de l'instrumentalisation politique, il faut évidemment introduire dans ce paysage allemand l'AFD, parce que on voit déjà qu'il y a des velléités d'instrumentalisation. Au moment de l'interdiction dont vous parliez, on a eu une colère très forte du côté des responsables de l'AFD. On a par exemple la chef de file des députés de Bundestag, Alice Weidel, qui a regretté cette interdiction, accusant le gouvernement de chercher à faire taire les partisans. Voilà ce qu'elle disait, je cite son tweet. Auriez-vous pris la même décision si les manifs avaient été contre la droite, entre guillemets? Les droits fondamentaux ne sont désormais accordés qu'à ceux qui se comportent avec bienveillance envers la politique gouvernementale. On voit très clairement que cette extrême droite, elle est déjà en train d'essayer de politiser tout ça, et alors qu'on est quand même dans des décisions d'ordre sanitaire du côté des autorités allemandes.
Mmh. Alors effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort aussi de l'ouvrage qu'on a dirigé avec mon collègue Giuliano Boba à Turin, c'est quand on regarde les 6 premiers mois de la pandémie partout en Europe, il n'y a pas de politisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas prise. Les populistes n'ont pas prise sur cette crise parce que ils n'ont pas ce que dans la littérature on appelait un issue ownership, c'est-à-dire une espèce de propriété des enjeux. C'est pas une question migratoire, donc on peut pas, les populistes peuvent pas dire, regardez, on vous l'avait bien dit, c'est pas une question liée à des décisions néolibérales, donc il n'y a pas de prise. Et pendant les premiers mois de cette pandémie, les populistes ont vraiment du mal à politiser. C'était pour ça d'ailleurs qu'on a mené cette enquête. On était en train de travailler avec des collègues européens sur le populisme, et dans la littérature, on nous montre habituellement les populistes savent tirer profit des crises. Là, cette fois-ci, pendant les premiers mois, ils n'ont pas réussi. Parce que, comme vous l'avez dit, ce sont les conditions sanitaires. En Pologne, en Hongrie, en Italie, en Espagne, en République tchèque, les populistes sont au gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas, là non plus, tirer profit de la crise. Les autres, il n'y a pas d'autres. Ce ne sont pas des migrants. Défendre le peuple et la nation, c'est la question sanitaire. Donc finalement, tout gouvernant ne peut que prendre des décisions sanitaires. En revanche, ce qu'on voit apparaître maintenant que la crise est plutôt installée, c'est l'arrivée ou la tentative de repolitisation de cette crise au nom des libertés publiques. Avec un argument qui est, à mon sens, assez dangereux et malin de la part des opposants, c'est qu'ils défendent au nom des libertés publiques. Or, personne ne peut être contre des partis qui défendent la démocratie. Et c'est là où l'argument est extrêmement compliqué. Et l'argument de Weidel est de dire, justement, qui est le bon citoyen. Donc on tente de repolitiser entre le bon citoyen et le citoyen qui serait déviant parce qu'il pense mal.
J'entends ce que vous dites sur cette idée qu'au fond cette crise sanitaire serait au fond une crise un peu différente des autres et pas une crise apolitique parce que sanitaire. Et en même temps, quand on regarde les choses, ce qu'on a dit sur cette crise, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est aussi des gouvernements qui n'ont pas de réponse toujours efficace et toujours rationnel, que même les scientifiques ont été critiqués dans tout cela, que les agences, qu'elles soient régionales ou internationales, les agences de santé n'ont pas, elles non plus, montré une grande pertinence et efficacité dans la lutte contre ce coronavirus. Et donc, d'une certaine manière, c'est tout le système, je mets des guillemets, tel qu'il existe, qui a montré ses failles. Voilà là précisément la première des critiques, le premier angle qu'on pourrait attendre des populistes. C'est une crise parfaite pour les populistes parce que c'est une crise du système. Les populistes, que font-ils depuis si longtemps? Ils critiquent ce système et ils veulent le changer. C'est la crise parfaite pour eux.
C'est la crise parfaite quand il n'y a pas d'urgence sanitaire. C'est pour ça que les 6 premiers mois, qui peut être contre finalement protéger ses citoyens. Les décisions sont brutales, sont rapides, on a du mal à se repérer dans les décisions, mais malgré tout, il s'agit de défendre les citoyens de mort, d'une surmortalité. Donc c'est pour ça qu'au début, les populistes ont du mal. Et justement, comme vous le dites, c'est maintenant que on peut remettre le doute, ou en tout cas tirer profit du doute. Parce qu'effectivement, c'est une crise assez exceptionnelle, une crise de la rationalité en tout genre. Rationalité politique, rationalité médiatique, rationalité scientifique. Et je pense que c'est là où il y a une réelle nouveauté, c'est que on redécouvre les controverses scientifiques, ou en tout cas, dit autrement, on met au jour ce qui est l'ordinaire de la science. L'ordinaire de la science, c'est de pas être d'accord, d'essayer, de tester, de se tromper, et que les médicaments ne marchent pas, qu'on essaye des protocoles et que ça marche pas, qu'on se dispute. Finalement, ça fait partie du job habituel.
La contradiction est au cœur de la marche scientifique.
Exactement. Et là, subitement, on la met au jour et elle sort de son espace dans lequel elle se trouve, se trouve habituellement. Et du coup, comme ils sont pas d'accord, on peut en profiter pour dire, regardez, des grands scientifiques disent que, et on tombe sur les théories du complot habituelles entre ceux qu'on voit au chapitre et les autres qui n'y ont pas droit.
Et puis, pour poursuivre un peu sur cette critique venant des populistes, vous disiez pas de lien direct avec la question de l'immigration, pas de lien direct avec la question du néolibéralisme, on pourrait dire tout à fait l'inverse. Ce que disent les souverainistes, c'est que si on avait fermé les frontières, le virus ne serait pas passé. On en doute quand on voit qu'effectivement, du côté de la Corée du Nord, par exemple, par un pays franchement très ouvert, il y a aussi eu des cas. Mais l'argument est quand même dans la bouche des populistes. Si on n'avait pas eu ce monde néolibéral, si on n'avait pas eu ce monde immigrationniste, mais des guillemets partout, mais on ne serait pas dans ces conditions-là. Ça fonctionne. L'argument fonctionne aussi dans l'autre sens.
Oui, tout à fait. Et puis, au début, on a vu quelques prises de position de Marine Le Pen de dire il faudrait fermer les frontières avec l'Italie, notamment. Mais finalement, l'argument est un peu tombé.
N'a pas marché.
D'ailleurs, tous les pays ont fermé leurs frontières. On a contrôlé plus ou moins les vols, les trains, et ça continue. Ça continue vers l'Allemagne. Si vous voyez maintenant de Paris vers l'Allemagne, il faut remplir des formulaires, il faut se mettre en quarantaine, il faut faire des tests. Pour l'Espagne, c'est pareil. Donc finalement, c'est difficile à faire valoir. Et en revanche, ce qui est intéressant, si on prend les populistes au pouvoir, Viktor Orban, ça a été le cas aussi de la Pologne, ça a été le cas de la République tchèque, ça a été même plutôt pour eux l'occasion de montrer que ce sont des bons gestionnaires, donc précisément de pas politiser. On prend les bonnes décisions, on s'appuie sur la science pour prendre une bonne décision raisonnable. Alors ce qu'il fait de leur spécificité populiste, c'est leur capacité à dire, moi en tant qu'homme fort, j'ai pris telle décision après avis du Conseil, mais c'est moi qui ai pris la décision.
C'est-à-dire que finalement, des décisions qui ont été prises dans la Hongrie de Viktor Orban, dont on dénonce la dérive autoritaire depuis tant d'années, ne sont pas si différentes de celles qu'on a vues en France.
Oui, tout à fait.
Avec l'état d'urgence, avec...
C'est-à-dire ce qu'on observe et ce qui ressort de cet ouvrage, c'est que les décisions, avec des gradations un peu différentes, mais sont toutes relativement similaire. On a eu des confinements plus ou moins forts, c'était beaucoup plus fort en Italie et en Espagne, plus erratique en France, parce qu'en Espagne, je pense que on en saura plus tout à l'heure, la décision est tout de suite prise d'interrompre l'année scolaire, ce qui n'a pas été le cas en France, mais globalement les décisions sont relativement proches. Et puis ce qui est une autre spécificité sans doute européenne, pour l'instant difficile à expliquer, c'est qu'on n'a pas de gouvernants comme Trump ou comme Bolsonaro qui véritablement ont essayé de jouer la carte du complotisme. On l'a eu un petit peu au Royaume-Uni, mais Boris Johnson étant tombé tout de suite malade, finalement l'argument est tombé à plat et les décisions prises au Royaume-Uni avec un peu de retard ont été par rapport aux autres pays européens ont été relativement extrêmement proche.
Si on se projette un petit peu, Nicolas Hubet, et qu'on regarde dans quelques mois, dans quelques années, ce qu'il va falloir faire pour répondre peut-être à cette deuxième vague populiste qui viendrait suite à cette crise sanitaire, je le disais tout à l'heure, l'un des angles d'attaque des populistes, c'est de dire au fond tout ça est le résultat d'un néolibéralisme effréné, d'une politique migratoire complètement folle, enfin... Je me place du point de vue des populistes. Pour enrayer précisément cette vague, il va falloir répondre à cette critique. Est-ce que vous avez le sentiment que les gouvernements en place ont pris la mesure de l'importance à répondre à cette question et donc d'introduire plus de régulation économique, puisque c'est ce qu'il faut pour répondre à cette critique, et du souverainisme aussi, du souverainisme économique?
Alors, la question
et la politique migratoire, pardon, c'était le deuxième volet, et donc être peut-être plus strict sur la question migratoire. Est-ce que vous avez le sentiment que les gouvernements européens ont pris la mesure de tout cela et pour éviter cette deuxième vague vont agir sur ces deux volets-là?
Déjà, ils ont pris une certaine mesure en décidant d'une politique européenne commune. Certes, sans doute insatisfaisante en termes de moyens, lorsqu'on rapporte ça à l'Union européenne et sur le nombre d'années du programme, ça fait peu de choses, mais c'est quand même une décision relativement forte. En tout cas, si souverainisme, on devait l'appeler, ce serait une forme de souverainisme européen. Après, les réponses par rapport à la question politique sont différentes. Si on se place du côté français, sans doute que les défaillances en termes de santé publique sont criantes, et la réponse est sans doute en termes de soutien aux infirmiers, soutien aux hôpitaux, beaucoup plus fortement qu'en Allemagne, où la question s'est finalement peu posée. Elle s'est peu posée aussi dans ces termes en Italie. Donc les réponses sont après spécifiques au contexte nationaux. Et en tout cas, il faudrait sans doute apporter une réponse.
Si on revient sur la question de l'Allemagne, est-ce que précisément cette réponse a été suffisamment forte? Il y a beaucoup de critiques, en tout cas certaines voix s'élèvent en Allemagne pour dire que Angela Merkel n'aurait pas pris la mesure en réalité de cette montée de l'extrême droite en Allemagne. Est-ce que vous êtes de cela? Et au fond, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Angela Merkel? L'AfD, c'est un parti qui a émergé 2013 et qui s'est considérablement étendu avec la crise de l'accueil après 2015. Qu'aurait dû faire Angela Merkel pour contenir cette montée de l'extrême droite en Allemagne?
Je crois que dans le cas allemand, c'est pas une seule Angela Merkel qui peut prendre une décision.
Il s'agit de lire quand même.
Elle est chancelière, mais surtout, on est dans un régime parlementaire, et c'est extrêmement important de le rappeler, qui repose sur la construction de coalitions et de gestion, finalement, des oppositions. Et une des raisons de l'émergence politique, c'est-à-dire en termes de parti politique de cette extrême droite, elle est dans l'absence de clarification à droite d'un parti de droite, on va dire. C'est-à-dire que avec toutes ces années de grande coalition, et c'est un des reproches qu'ont pu lui faire certains membres de son parti, certains qui sont partis de son parti, c'est de dire finalement vous ne gouvernez plus assez à droite. Et la question s'est posée en 2017, après les résultats de l'élection, de savoir quelle coalition on allait construire. Le SPD avait très clairement dit pendant la campagne, je ne veux plus d'une grande coalition, je me mettrai dans l'opposition. Les Verts ont longtemps hésité. Les Verts sont pris entre deux feux, entre les deux ailes du parti, certains étant prêts à gouverner avec la droite, et ça a laissé un espace à droite de la CDU et de la CSU, ça a laissé un espace aussi à la droite des libéraux du FDP pour créer un parti ordonné néolibéral. Alors c'est aussi une spécificité, c'est que l'AFD est à la fois et se crée au départ sur la crise de l'euro, sur le respect de la Constitution, sur le respect des déficits, avec un argument xénophobe. On va pas payer pour les pauvres, on va pas payer pour la Grèce, on va pas payer pour la France, l'Italie, l'Espagne. Et c'est rajouté à ça, effectivement, l'aile la plus à droite, la Flügel, qui est une aile clairement d'extrême droite, anti-migrante. Et maintenant, ils sont installés dans le paysage. Ils sont dans tous les parlements régionaux. Et si l'Allemagne, les partis politiques allemands devaient trouver une solution, c'est sans doute en refaisant une politique plus claire, de droite ou de gauche, de politiser eux-mêmes leur parti. Qu'un électeur de droite, quand il vote à droite, CDU, ne trouve pas à prendre des décisions, j'allais dire, de gauche de la SPD. Et inversement. C'est sans doute d'ailleurs ce qui a contribué à tuer le SPD. Donc à gauche se pose ou se repose la question, est-ce qu'on peut faire une alliance avec Die Linke et les Verts, donc une coalition des trois partis de gauche, et à droite, est-ce que CDU, CSU, FDP se suffisent à eux-mêmes? Alors pour l'instant, effectivement, il y a toujours cette ligne noire de ne pas faire absolument jamais de coalition avec l'AFD.
Est-ce qu'elle pourrait sauter
cette ligne noire,
cette digue entre CDU, CSU et puis l'extrême droite allemande?
Je crois que vu ce qui est en train de se passer, ça me paraît extrêmement difficile. C'est-à-dire que là, tant que l'AFD continue de soutenir les mouvements anti-masques, c'est pas les mouvements anti-masques en soi, mais c'est le fait de soutenir les manifestations dans lesquelles on voit des personnes manifester avec le drapeau du Reich, enfin du Reich impérial, mais aussi le drapeau qui a servi jusqu'en 1935, noir, blanc, rouge, et non pas noir, rouge, or, qui renvoie comme un signal très clair vers une extrême droite, vers un passé que les forces démocratiques ne veulent pas.
Mais on ne pourrait pas imaginer dans un premier temps des alliances au niveau local, au niveau des Länder, et puis ensuite, pourquoi pas, si ça fonctionne, l'imaginer au niveau fédéral, mais dans un premier temps au niveau local?
Ça peut être une possibilité politique. Il y a eu à l'automne une première tentative pour l'élection du ministre-président de Thuringe, où le ministre-président Die Linke a été défait par la droite avec le soutien de l'AFD. Ce qui n'a au départ, enfin le nouvel élu CDU n'a pas contesté, puis finalement s'est rétracté parce que ça allait trop loin et que ça avait fait une grande protestation politique dans tout le pays. Mais on voit que, un peu à l'instar de la France, où pour les élections régionales de 88 ou celles de 92, certains élus de droite dans les conseils régionaux, UDF ou RPR, avaient été élus avec le soutien du Front National. Effectivement, c'est une manière de s'installer dans le paysage politique.
Sur la France, justement, on le disait tout à l'heure en commençant cette émission, très peu de personnes rassemblées place de la Nation pour dénoncer justement l'obligation de porter le masque, 200-300 personnes. On a l'habitude de dire que les Français sont les chefs de la manifestation, les maîtres de la contestation. Là, c'est un flop, ça a fait pchit, comme aurait dit un ancien président. Comment le comprendre?
Je pense que là encore, si on compare les deux manifestations, je crois que le fond de la manifestation de Berlin, c'était ce discours anti-élite, anti-gouvernement, le masque étant un argument parmi d'autres. Cette contestation anti-système, anti-élite, elle est installée depuis plus longtemps en France. Elle a occupé les rues des premières années du quinquennat Macron avec les gilets jaunes. Et quelque part, le masque ici ne peut pas capitaliser sur cette cette colère des anti-élites, des anti-systèmes. Et en plus, il n'y a pas la dimension sociale qu'on a pu voir en France du côté des Gilets jaunes, d'une contestation sur le pouvoir d'achat, etc. Ces arguments ne sont pas du tout présents dans les manifestations à Berlin, par exemple.
On est avec vous, Nicolas Hubet, dans cette série consacrée au Covid, une rentrée sous tension aujourd'hui, coronavirus vers une deuxième vague populiste, point d'interrogation. On parlait de l'Allemagne, on va se tourner du côté de l'Espagne parce que une quinzaine de jours après la première manifestation de Berlin qu'on évoquait tout à l'heure du 1er août, c'est du côté de Madrid justement que l'on va manifester contre le port de masque. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h30 minutes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je suis contre le port du masque parce qu'il a été démontré que ce n'est pas utile dans la rue ou en extérieur, et en particulier dans les espaces où vous êtes obligé de le porter, comme à la montagne ou à la plage.
Il me prive de ma liberté. J'ai 62 ans, j'ai connu Franco, j'ai connu le terrorisme et je ne me suis jamais senti aussi oppressé de toute ma vie. Jamais.
Liberté, scandée des centaines de manifestants réunis à Madrid le 16 août dernier, protestant contre le port du masque obligatoire, mais dénonçant plus généralement les choix du gouvernement central dans cette crise sanitaire. Bonjour Nassima Baron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, membre du laboratoire Ville, Mobilité, Transport. En fait, les manifestations pour dénoncer la réponse du gouvernement à la pandémie, elles ont commencé dès le printemps, dès le mois de mai, avec des personnes qui frappaient sur des casseroles tous les soirs à 21h, depuis leur balcon pour faire entendre leur colère. Et dans ce cas précis, les populistes, là aussi, ont clairement instrumentalisé les choses, puisque le parti Vox, qui est donc parti d'extrême droite, je le rappelle, devenu troisième force politique au Parlement, un peu comme l'AFD du côté de l'Allemagne, il a appelé assez ouvertement à soutenir ces tambourinages. Est-ce que Vox est aussi derrière ces rassemblements de Madrid contre le port du masque obligatoire ?
Je vais vous répondre oui et non. D'abord, cette manifestation, enfin la manifestation de la semaine dernière, elle n'a pas été très importante à la place Colomb. Elle a rassemblé environ 2500 personnes, mais c'est quand même une manifestation tout à fait inquiétante, non seulement parce qu'il y a eu probablement des infections, puisque les personnes ne portaient pas de masque, mais parce qu'elle témoigne de la cristallisation de collectifs qui sont très diversifiés et qui me semblent aller au-delà de l'épisode donc de pessimisme, de revendication avec les casserolades du printemps. Et donc vous me parlez de Vox. Alors qui y avait sur cette place ? Il y avait différents collectifs qu'on appelle un peu négationnistes. Alors on en a parlé depuis le début de l'émission, les anti-vaccins, les anti-masques, quelques personnalités publiques, un chanteur populaire, Miguel Bosé, qui déclarait que étant asthmatique, voilà, il était un peu porte-parole des personnes qui sont incommodées par le masque. Et à la suite d'une campagne assez intense sur les réseaux sociaux, on a vu finalement s'agréger d'une part des insatisfaits un petit peu de la politique, soit du gouvernement, soit de la région, on y reviendra puisque la communauté autonome porte aussi évidemment la responsabilité de la gestion de la pandémie, étant donné que les communautés autonomes sont responsables des politiques de santé, mais les négationnistes sont aussi du côté de la théorie du complot, de la conspiration. On a retrouvé assez largement le type de discours qu'on trouve dans les mouvances populistes. Alors Vox, puisque vous en parlez, dirigé par Santiago Abascal, porte un programme qui s'appelle « Protégeons l'Espagne », dans lequel il positionne son parti, et c'est là des éléments de parallélisme qu'on peut mener avec AFD, avec l'Allemagne, porte un programme protégeant l'Espagne qui est parfaitement contradictoire, qui commence par la volonté de tester, de soutenir hôpitaux et maisons de retraite, de produire nationalement des masques, et puis qui s'élargit à surtout un plan de protection des Espagnols précarisés par la forte dépression économique, notamment dans le domaine de l'industrie hôtelière, de l'industrie touristique qui a beaucoup souffert, et puis après qui s'ouvre effectivement sur des demandes de défiscalisation et de recentralisation de la politique sanitaire.
Nassima Baron, est-ce que très clairement aujourd'hui ces manifestations, elles sont très clairement positionné très à droite. Est-ce qu'on est dans le cas d'un radicalisme droitier ou est-ce qu'on trouve aussi dans le spectre du populisme de gauche ?
Beaucoup moins. On trouve par exemple dans ces cercles qui étaient vraiment très très hétérogènes. Hein. Il y a toujours un petit peu des groupuscules. Il y a ceux de qui sont sur des fake news ou des un scientisme, qui sont sur la Terre plate. Enfin, vraiment des choses un petit peu fantaisistes. Mais on trouve aussi certains cercles proches de l'Église catholique traditionnaliste. Hein. L'archevêque de Valencia a quand même récemment prêché qu'on était en train d'utiliser des cellules mères de fœtus avortés pour la recherche sur les vaccins. Il a qualifié cette recherche d'œuvre du diable. Les universités catholiques, notamment à Murcia, ont développé des discours très proches des fake news sanitaires et d'un discours conspirationniste. Et là, on est un petit peu dans les mouvances de cercles proches de la droite la plus traditionnaliste, la plus conservatrice. Évidemment, le Parti populaire est dans la tourmente aussi avec cette affaire.
Nassima Baron, si je reviens à l'actualité et cette décision de Pedro Sanchez, je rappelle que du côté de l'Espagne, on est dans une situation très très difficile avec un rythme de contamination qui repart à la hausse et il a proposé aux régions, Pedro Sanchez, l'aide de l'armée et surtout il leur redonne des marges de manœuvre parce qu'il leur donne la possibilité de proclamer l'état d'alerte sur leur territoire pour limiter les déplacements et éventuellement pour décider de confinement. Est-ce que ça, ces marges de manœuvre redonnées aux régions, c'est une bonne manière de se mettre à l'abri des critiques ou est-ce qu'au contraire, il ne risque pas, Nassima Baron, de se retrouver encore avec cette droite espagnole qui va considérer que Madrid se montre encore beaucoup trop faible face aux régions ?
J'ai tendance à vous dire que ce dialogue très tendu entre la communauté de Madrid et le gouvernement dirigé par Pedro Sanchez rejoue un peu le match PSOE-PP, c'est-à-dire que presque tous les jours devant les médias, il y a un affrontement entre le ministre de la Santé, donc du gouvernement, Salvador Illa, et la responsable des affaires sociales du Parti Populaire, qui est une ancienne ministre de niveau national, enfin Ana Pastor, donc on s'envoie des gentillesses sur la responsabilité des uns, des autres, sur le fait qu'il y a une impuissance politique, qui n'est pas totalement fausse, mais qui est peut-être des deux côtés. Donc pour revenir un peu à ce débat, parce que Madrid, la communauté de Madrid et la ville de Madrid sont un foyer très important hein, de retour de cette deuxième vague, si on peut dire. Donc la présidente de la communauté de Madrid, qui est donc gouvernée Parti Populaire, Isabel Díaz Ayuso, appelle sans cesse à la responsabilité, à l'unité, mais elle charge durement contre le gouvernement, comme d'ailleurs son allié le maire de Madrid, Martínez Almeida, également du Parti Populaire. Et elle demande des appuis pour se lancer ces opérations de tests massifs pour faire face à cette épidémie. Tandis que les régions de gauche sont plutôt dans la préparation d'une nouvelle normalité, la coopération avec le gouvernement socialiste. Je pense par exemple à la communauté valencienne qui est fortement touchée, mais elle est gouvernée par le PSOE et elle a par exemple recruté 4000 professeurs, 3000 moniteurs pour faire travailler les élèves en demi-groupe dans les écoles et pour participer à la politique de prévention et de gestion de la crise sanitaire dans une approche moins polémique.
Je vais faire réagir peut-être Nicolas Hubet aussi ici en plateau. C'est vrai que l'Espagne c'est un cas particulier, d'abord parce que c'est un pays qui a été très touché, ensuite parce que traditionnellement c'est comme ça que ça fonctionne, mais les questions sanitaires sont la prérogative des régions autonomes plus que du gouvernement central, sauf que dans des situations comme celle-ci, eh bien il a bien fallu que le gouvernement central apporte des réponses spécifiques au niveau national. D'ailleurs, il y en a encore une récente puisque le Premier ministre a décidé le port du masque obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 ans, alors même que les questions d'éducation sont aussi des prérogatives en réalité régionales. Donc on voit qu'on a un équilibre extrêmement difficile à trouver pour l'exécutif espagnol, parce que d'un côté, si on n'en fait trop, on tombe sous le coup des critiques de la droite espagnole, et en même temps, il faut quand même en faire suffisamment, parce que si on n'en fait pas suffisamment, on est aussi critiqué. C'est très compliqué, Nicolas Hubet, d'être sur la juste ligne.
Mais je crois qu'on retrouve ici aussi une situation assez assez similaire avec celle de l'Allemagne, puisque là aussi les compétences reviennent aux Landes, et on a vu fin de semaine dernière aussi toute une journée de négociations et de négociations parfois un peu difficiles entre la chancelière et les représentants de tous les Länder pour prendre des décisions unitaires. Et on voit par exemple sur la question du port du masque et la question des amendes pour non-port du masque, que 15 Landes sur 16 ont accepté une amende, mais pas celui qui a le moins de contamination, le Land de Saxe-Anhalt, qui a dit non, nous, ça ne nous concerne pas. Effectivement, il y a ce jeu un peu compliqué, y compris la question de la responsabilité politique, à en faire suffisamment sans en faire trop peu pour pas être accusé soit de laxisme, soit d'impréparation, que pourrait laxisme ou impréparation sur lesquels pourraient profiter justement les opposants. Et ce qui ressort du cas espagnol, c'est justement cette tentative pour le Parti populaire de reprendre la main pour montrer combien il gouvernerait mieux que la gauche.
Merci beaucoup en tout cas à Nassima Baron qui est avec nous en direct ce matin. Après l'Espagne, on va prendre la direction de la Suède. Alors voyons comment ça se passe quand précisément on n'oblige à rien, que l'on donne seulement des recommandations, mais qu'on ne contraint pas les gens. Est-ce que là, effectivement, ça permet de contenir la poussée, les critiques et la poussée populiste? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je propose d'entendre d'abord Anders Tegnell, qui est devenu une grande figure du côté de la Suède, puisque c'est lui qui dirige l'agence de santé publique.
Un masque est quelque chose que vous pouvez ajouter si vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'entasser. Et jusqu'à présent, la situation n'a pas été comme cela en Suède. En ce moment, nous avons une situation avec un nombre de cas en chute rapide sans masque. Alors, introduire des masques dans cette situation n'aurait bien sûr pas beaucoup de sens.
Je pourrais bien sûr porter un masque, mais s'ils disent que c'est bon sans, alors ce sera sans.
Nous attendons qu'ils le décident, car s'ils ne le décident pas, je ne le porterai pas, parce que personne d'autre ne le fait.
Voilà, personne d'autre le fait, donc finalement c'est assez naturel. On a l'air de plutôt comprendre cette décision d'Anders Tegnell, qui par ailleurs a très bonne presse quand on regarde les sondages d'opinion. Il est très soutenu. Bonjour Cyril Coulet. Cyril Coulet, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Ça y est, moi aussi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des pays nordiques, ancien chercheur à l'Institut suédois des relations internationales. Aujourd'hui, à peu près tous les pays prennent des mesures plus strictes pour aborder cette rentrée, mais pas la Suède. Stockholm est la seule capitale d'Europe qui ne recommande pas le masque. Même ses voisins, la Finlande, la Norvège, les Danois ont fini par le rendre obligatoire dans les transports collectifs. Pas la Suède. Pour quelle raison? Comment comprendre qu'on poursuit comme ça sur cette voie laxiste, Cyril Coulet? Ça fonctionne pas si bien du point de vue sanitaire.
Alors, c'est effectivement surprenant parce que d'une part, c'est en contradiction avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a un consensus scientifique qui se dessine au niveau international et auquel la Suède ne souscrit pas. Et puis, effectivement, la Suède est un pays qui a quand même été assez touché par le coronavirus, très fortement au regard de sa population, si l'on compare avec ses voisins, où on a un taux de contamination par habitant qui était très élevé, comparable quasiment à celui de la France ou de l'Espagne, sur des pays qui ont une densité de population et une inscription dans des espaces géographiques beaucoup plus importantes et beaucoup plus ouverts que la Suède.
Et alors, est-ce qu'il y a des voix du côté de la Suède qui demandent des mesures plus fermes? Parce que je le disais, il y a effectivement une enquête assez récente qui a été réalisée par l'Agence de la Protection Civile qui indiquait que 73% des Suédois font confiance à l'Agence de Santé Publique dirigée justement par cet homme, Anders Tegnell, qu'on vient d'entendre. Alors, est-ce à dire que personne en Suède ne demande qu'on rende le port du masque obligatoire et tout le monde considère que tout va très bien, tant pis pour les chiffres, continuons comme ça?
Non, alors, en fait, c'est pas aussi consensuel que cela. Souvent, en fait, on oublie de préciser qu'en Suède, on a des agences indépendantes qui sont distinctes du gouvernement, réputées pour être apolitiques, et que cette indépendance-là leur garantit en définitive un niveau d'adhésion populaire bien plus important que l'administration ne pourrait l'avoir en France, puisqu'il y a une moindre tentation, en tout cas, de la politisation. Cela étant, on a quand même des voix dissidentes qui se font entendre. Les premières d'entre elles émanent bien sûr de la communauté scientifique. puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas de consensus aujourd'hui scientifique sur la stratégie suédoise, voire même en définitive, la Suède s'inscrit en dissensus par rapport au consensus actuel. Donc évidemment, il y a des médecins et des chercheurs qui font valoir que des études parues dans des revues comme The Lancet tendent à démontrer que le masque pourrait contribuer à prévenir la diffusion de l'épidémie, là où l'Agence de santé publique énonce que ça n'a aucun effet.
Mais ça, c'est dans le monde scientifique, Cyril Coulet. Quid du monde politique? Dans le paysage politique suédois, il y a un parti qui demande à ce qu'on rende précisément le masque obligatoire. C'est les démocrates suédois, qui est un parti d'extrême droite, qu'on qualifie parfois de populiste. Alors, peu importe, il y a beaucoup de débats autour du terme. C'est pas le sujet, mais est-ce qu'on n'a pas un risque de voir ce parti renforcé par cette crise sanitaire au motif que, eh bien, les autorités suédoises auraient été les seules à ne pas prendre la décision d'obliger à porter le masque?
Alors, j'allais y venir. Effectivement, on a cette première frange quand même de la contestation qui existe. Il y en a une deuxième qui est un peu plus mezzo voce, qui s'exprime quand même, qu'on voit un peu moins relayé dans les médias, qui effectivement est l'opposition du parti d'Espagne démocrate, qui pour le coup s'aligne sur la doxa scientifique internationale et qui effectivement constitue une tentative de politisation en tout cas de la question qui jusqu'ici a été, en tout cas sur la question de l'absence de confinement, était relativement peu abordé dans l'espace public suédois. Donc il y a une tentative de faire aussi peut-être un coup politique de la part des populistes, mais en jouant sur une stratégie finalement inverse de celle que l'on pourrait avoir dans d'autres pays où en définitive on préconise cette fois le respect des mesures barrières au maximum.
Et ça peut marcher, Cyril Coulet? Je rappelle pour les auditeurs, il y a 10 ans, aux élections de 2010, ces démocrates suédois font leur entrée au Parlement, et puis 4 ans plus tard, en 2014, ils avaient même encore progressé, et surtout ils avaient produit cette crise politique inédite, puisqu'ils avaient mis le gouvernement de l'époque en minorité, et qu'ils s'étaient retrouvés absolument incapables de faire voter le budget. Est-ce que ce parti pourrait finir par se retrouver en position de former un gouvernement? C'est jamais arrivé jusqu'ici, c'est possible?
Alors, les résultats des dernières élections et les tractations qui ont lieu entre les différents partis ont montré que le bloc qui avait été constitué par les partis politiques traditionnels pour rejeter le Parti des démocrates suédois en dehors du jeu politique tendait à se fissurer. Donc aujourd'hui, rien n'est certain. On a déjà vu dans d'autres pays nordiques, je pense notamment à la Norvège ou à la Finlande, que des partis finalement populistes de droite pouvaient accéder au gouvernement, même si ils n'ont pas toujours été majoritaires, mais en tout cas ont pu constituer des alliances avec des partis politiques qui les rejetaient précédemment. Donc cette stratégie aujourd'hui de la dissension, ou en tout cas de la voie alternative que portent les démocrates de Suède, est susceptible de trouver un écho auprès d'une partie de la population, même si, vous l'avez dit très justement, quand même, on a aujourd'hui un niveau de soutien populaire qui est quand même très élevé pour les décisions qui sont prises par l'Agence de santé publique.
Pour les décisions prises par l'agence, quand on regarde les décisions prises par le gouvernement, c'est beaucoup moins. Je disais 73% des Suédois font confiance à l'agence de la santé publique. Quand on regarde les chiffres de confiance envers le gouvernement, c'est beaucoup moins. C'est 52%. Alors, vous me direz, d'aucuns s'en satisferaient. Évidemment, mais c'est beaucoup moins quand même.
Oui, mais parce que, à nouveau, c'est compliqué à expliquer, mais dans le contexte constitutionnel suédois, il y a le principe de ce qu'on appelle Regeringsstyre, qui est l'interdiction faite au gouvernement de s'immiscer dans la politique des agences indépendantes. Donc, l'agence de santé publique n'est pas perçue comme étant l'émanation du gouvernement. Et donc, elle est susceptible de recueillir finalement un niveau d'adhésion qui peut être différent de celui que peut avoir le gouvernement, ce qui aujourd'hui, pour nous, semblerait assez incompréhensible en France. On imagine mal avoir une agence régionale de santé qui aurait un taux d'adhésion plus important que le gouvernement sur la politique de santé publique.
Oui, surtout qu'elle a été très critiquée.
Voilà. Mais en tout cas, c'est un peu cette articulation-là, en fait, qui est automatique dans notre culture politique, ne l'est pas en Suède. Ouais. Et par ailleurs, la Suède a été, le gouvernement suédois a été dans l'obligation de faire voter un certain nombre de lois par le Parlement pour lui donner des moyens afin de pouvoir prendre des mesures de prévention qui n'étaient pas en capacité de prendre. Si on regarde les décisions qui ont été prises par la Suède et la Finlande, et le Danemark, pardon, on voit qu'il y a une très grande différence entre les deux et que les Danois ont été en capacité d'agir très rapidement parce que leur exécutif était beaucoup plus fort et disposait de prérogatives, notamment sur la fermeture des lieux de transit, les ports, les gares, là où le gouvernement suédois était dans l'obligation, en fait, d'introduire un projet de loi, de faire voter par le Parlement pour pouvoir mettre en œuvre une politique de restriction. Donc, on a un contexte constitutionnel dans lequel, effectivement, le gouvernement a eu des prérogatives limitées parce que il lui fallait l'accord du Parlement pour pouvoir prendre des mesures de précaution d'une part, et d'autre part limitées parce que l'Agence de santé publique, en définitive, est aussi indépendante.
Nicolas Hubet, sur ce cas suédois, vous voulez réagir ?
Effectivement, ce qui est intéressant sur le cas suédois, et c'est ce qu'on rappelait aussi précédemment, c'est la nécessité à un moment donné de revenir vers le Parlement et qui rebat un peu les cartes. Le fait que les démocrates, le parti démocrate, soit du côté des masques, les place effectivement du côté d'une forme de rationalité scientifique comme d'autres l'ont fait, et plus généralement, à chaque fois que les décisions ont dû passer devant le Parlement, partout, qu'il s'agisse du Brexit Party, qu'il s'agisse de Vox au départ, les décisions ont été validées, votées par ces partis. Ce n'est qu'après, c'est que ex post qu'on peut profiter de ces crises.
Un tout dernier mot, Cyril Coulet, parce que la semaine dernière, le gouvernement suédois a annoncé un plan de relance très important, 10 milliards d'euros. Il a sorti son budget pour 2021. Il a qualifié ce budget de historique. On parlera demain justement des plans de relance. Cyril Coulet, en quelques mots, que nous dit ce budget ? Effectivement, est-ce qu'on est là devant quelque chose d'historique à même de relancer cette économie suédoise ? Cyril Coulet ?
Alors, relancer l'économie suédoise à travers les seuls moyens de la Suède, ça semble difficile puisqu'on est quand même sur une économie qui est très largement internationalisée. Et de ce point de vue-là, les prévisions économiques pour la Suède sont aussi sombres qu'elles le sont pour la France, avec une chute annoncée du PIB potentiellement de 10 points, donc c'est vraiment très élevé. Il s'agit en fait plutôt là de mobiliser des amortisseurs pour essayer de limiter la casse. Il n'est pas certain que ça produise tous les effets parce que le marché domestique suédois, de toute façon, n'est pas suffisant pour faire vivre son économie et parce que la plupart des entreprises suédoises ont aussi des intérêts importants à l'international. Et donc, la conjoncture économique globale ne pourra pas être compensée uniquement par les moyens suédois.
On parlera justement demain des plans de relance. Merci Cyril Coulet. Stay the hell away from me. I don't touch, just see. It's a sad reality. Stay the hell away from me. While the world's in quarantine, I will see you in my dreams. Un grand merci à vous, Nicolas Hubet, de nous avoir accompagnés ce matin.
Je vous en prie, merci.
Pour éclairer cette question dans cette nouvelle série consacrée au Covid, une rentrée sous tension. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, Covid and Populism. On mettra la référence de cet ouvrage qui n'est pas encore paru, mais qui est passionnant pour l'avoir lu, pas de façon exhaustive pour être tout à fait honnête, mais en grande partie ces trois derniers jours. C'est absolument passionnant, donc il faudra suivre ça. On mettra évidemment la référence sur le site de Culture Monde. Un grand merci à vous. On poursuit demain nos pérégrinations autour de ce Covid encore et toujours. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et cette semaine, vous avez l'intention d'attirer notre attention sur un certain nombre de parutions récentes consacrées à un thème central, la science et la religion.
Oui, parce qu'on constate une floraison surprenante, dans le monde anglo-saxon en particulier, d'ouvrages et d'articles savants sur ce sujet. Et il semble qu'en France, nous ayons recueilli trop peu d'échos de ces débats. Chez nous, en effet, l'affaire semble avoir été classée depuis le 19e siècle. Notre vieille tradition positiviste nous suggère que les religions ont toujours été un obstacle à la recherche et à la diffusion des vérités conquises par la science. Sans adhérer nécessairement à la thèse d'Auguste Comte des trois âges, scandant l'histoire intellectuelle et morale des sociétés, nous avons spontanément tendance à penser que l'âge positif, comme il disait, le temps de la science, si vous voulez, a succédé à l'âge théologique et à l'âge métaphysique. La science, c'est du solide, la religion, un supplément d'âme, une survivance fossilisée. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça qu'on raisonne dans les pays anglo-saxons en ce moment. Et les rapports entre religion et science y sont conçus selon une optique bien différente de la caricature que je viens de tracer. Prenez Peter Harrison. C'est un universitaire australien de haut niveau et de bonne renommée. Ancien professeur d'histoire à Oxford, il dirige depuis quelques années l'Institute for Advanced Studies in Humanities à l'Université du Queensland. Et il a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire des relations entre la science et la religion, notamment « The Territories of Science and Religion ». Il a aussi dirigé un ouvrage collectif « The Cambridge Companion of Science and Religion ». Et à ma connaissance, aucun de ses livres n'a été traduit en français. Alors selon lui, selon Peter Harrison, prétendre que les progrès de la science feraient disparaître la religion, eh bien c'est prendre le cas particulier de l'Europe pour un modèle universel. En réalité, selon lui, hors d'Europe, non seulement les religions ne reculent pas, mais elles progressent dans pas mal de pays. Et il cite en particulier les cas de l'Inde et de la Turquie. Deux cas qui sont significatifs dans la mesure où leurs États ont été fondés par des personnalités animées d'idéaux rationalistes et sécularistes. Jawaharlal Nehru et Mustafa Kemal Atatürk. Aujourd'hui, l'Inde de Narendra Modi est marquée par un grand retour à l'hindouisme, qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes à ses citoyens professant une autre religion, en particulier les musulmans. En Turquie, Atatürk était un adepte des thèses évolutionnistes de Darwin, qu'il insista pour faire enseigner dans les écoles. Erdogan, comme on sait, est un islamiste et il a fait interdire le darwinisme dans les écoles de son pays. Là, ce n'est pas la science qui progresse, c'est bien la religion. Les philosophies de l'histoire, qui prétendaient que celles-ci étaient soumises à des lois du développement inéluctables et linéaires, ont cru pouvoir tirer du cas très particulier des sociétés européennes des schémas applicables à toutes les autres sociétés. Elles sont aujourd'hui considérées comme des vieilles lunes, même en Europe. Et lorsque, hors d'Europe, la sécularisation progresse, car elle progresse, ce n'est pas sous l'influence de la science, selon Peter Harrison.
Mais alors Brice, quelles sont donc ces autres influences qui font reculer la religiosité ?
La sécurité, répond Ronald Inglehart. Cet éminent sociologue dispose d'une base de données mondiale indiscutable parce qu'il dirige le World Value Survey. Et cet institut vient de publier une étude qui montre que la religion est en recul depuis une douzaine d'années dans la majorité des 49 pays couverts par cette étude. Pour lui, les religions fournissaient aux populations menacées par les éléments naturels et victimes de famine des réassurances. Elle permettait notamment d'inscrire ces calamités dans un plan d'ensemble, un grand dessin sur lequel veillaient des puissances invisibles qu'on pouvait néanmoins se concilier en respectant certaines lois. Ces lois, religieuses donc, permettaient aussi de pacifier les relations entre les gens et aux époques où la mortalité infantile et la faiblesse de l'espérance de vie contraignaient les femmes à de très nombreuses grossesses pour assurer le simple renouvellement des générations, eh bien ces lois, elles encadraient les rapports entre les sexes en vue de la reproduction. Or, plus les peuples ont appris à maîtriser leur environnement naturel, plus les sociétés se sont pacifiées, plus la mortalité infantile a reculé, et moins les lois religieuses se sont avérées indispensables. Plus la sécurité alimentaire, physique, sociale progresse, moins les religions demeurent socialement nécessaires. Comme l'écrit Inglehart, la sécularisation se produit quand les pays ont atteint de hauts niveaux de sécurité existentielle. Alors vous me direz, les défenseurs des religions ont souvent mis en avant que même les sociétés modernes comme les nôtres auraient besoin de garde-fous pour limiter l'avidité qui accompagne le capitalisme et l'enrichissement. Si tel était le cas, poursuit toujours Ronald Inglehart, si tel était le cas, les pays les plus fortement sécularisés seraient aussi les plus corrompus et les plus violents. Or, c'est exactement l'inverse. Les pays du nord de l'Europe sont les moins corrompus, les plus tranquilles et les moins religieux. À rebours, les plus corrompus sont des pays à religiosité forte : Bangladesh, Guatemala, Irak, Tanzanie, Zimbabwe.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.